On habitait à Saint-Jean-d'Orléans. Donc, on part 1h15 à peu près. Donc, finalement, je vais à Sainte-Foy depuis ce temps-là. Donc, toute la famille, on va à Sainte-Foy. Donc, je suis bien content d'être ici aujourd'hui avec vous. Tu me diras s'il faut que je fasse de quoi tantôt, Mario, là. Il y a une petite chose marquée « Got it ». Parfait, mais c'est bon. C'est un petit message là-dedans, c'est correct. Donc, mais aujourd'hui, c'est très rare que moi j'ai un PowerPoint. Contrairement à l'habitude de voir Guillaume, mais ici, il y a toujours un PowerPoint. Moi, c'est très rare que j'en ai un. J'en ai un aujourd'hui pour une chose spéciale, c'est parce que c'est un thème aujourd'hui, là. Mon message, je l'ai appelé Israël 101. Puis, c'était déjà prévu avant ce qui se passe actuellement en Israël. Mais généralement, je suis plus dans les lectures suivies. On a le livre des Actes, nous, le dimanche, puis l'Évangile de Luc qu'on achève là, le mercredi. Donc, vu que c'est un thème, je vais avoir des photos un peu plus tard, là. Donc, puis en fait, l'idée aujourd'hui, pourquoi j'appelle ça Israël 101, c'est qu'on a fait un voyage familial en juillet. Donc, puis le but aujourd'hui, en fait, quand Jean-Paul, Guillaume, on s'est parlé, que moi, je lui ai dit, je vais amener ça sous forme de prédication à Sainte-Foy, plus que juste un partage de photos puis un récit de voyage, là, ce qui peut être très intéressant, mais je voulais l'amener sur une prédication. Donc, il y a vraiment des aspects plus généraux, je dirais, sur Israël. Je vais avoir quelques photos, mais comme dans toute prédication, j'ai des leçons à application à la fin, là, donc c'est vraiment l'objectif que j'ai aujourd'hui. Puis, première prémisse, je suis pas un expert d'Israël. Je suis certain qu'il y en a peut-être qui sont allés ici. Je sais que Sainte-Foy, il y a entre autres André Gay qui est allé une couple de fois aussi. Fait que moi, je suis pas un expert d'Israël. J'ai lu avant d'y aller, tu sais, pour préparer un voyage comme ça. Je veux dire, pour en bénéficier au maximum, c'est le fun de lire d'avance. On a eu un paquet d'informations là-bas. Puis, j'ai continué de lire par après, là. Mais tu sais, je suis pas un expert. On lit nos B et tout ça, mais tu sais, je suis pas un expert comme tel d'Israël. Mais donc voilà, le but c'est de faire profiter les gens de ça, d'avoir des éléments de base utiles, je pense, sur Israël aussi. Quand on lit nos Bibles, ça va être une de mes leçons, mais de tout le temps mettre un passage dans son contexte. On n'est pas obligé d'aller en Israël pour ça, mais il faut toujours placer un passage dans son contexte. Fait que connaître Israël, la culture, l'histoire, ça aide toujours à ça. Donc voilà. Donc, quelques éléments. Première chose, puis moi, la première fois, je l'ai fait à Sainte-Foy, ce message-là, en fait, c'est la deuxième fois que je le fais. C'était le 8 octobre. Puis de mémoire, c'est le 7 octobre que le conflit actuel est redécollé là, en Israël. Donc, c'était pas prévu comme ça. Là. C'est bon, c'est les plans du Seigneur, mais c'était pas prévu comme ça quand on a donné les dates de tout le monde. Mais déjà, ce qu'on a vu l'été passé, je dirais il y a trois niveaux de tension en Israël. Quand on est allé, nous autres, pendant l'été, vous avez vu ça aux nouvelles, il y avait des manifestations. Mais tu sais, c'était pas dramatique. Là. C'est plus des choses locales, là, de la démocratie. Là. C'était une loi... C'est un peu la gauche contre la droite, si on veut. Fait que ça, c'est un niveau de manifestation qu'il y avait là-bas. Mais ça, c'est pas dangereux comme tel. Deuxième niveau de tension qu'il y a là-bas, c'est la Cisjordanie. Ça, on le voit aux nouvelles ces temps-ci. Mais c'est, il y a une occupation, la Palestine occupée, comme on dit là-bas. Ça, c'est toujours un potentiel de tension. Ça l'était, en tout cas, l'été passé. Mais ça monte, ça descend tout le temps. Quand on est allé, c'était quand même tranquille. Puis un troisième niveau potentiel de tension, qui est les autres pays autour, l'Iran, le Liban, la Syrie qui veut exterminer Israël, puis ils veulent avoir la bombe atomique. Donc, tu fais le lien entre les deux. Fait que, tu sais, tout ça, c'est les trois niveaux de tension. Puis actuellement, ce qu'on voit aux nouvelles, bien, c'est le deuxième, tu sais, c'est le Hamas qui a décollé tout ça. Puis probablement que le but du Hamas, c'est d'inciter les autres autour à entrer en guerre, parce que le Hamas contre la Syrie, que le Hamas contre Israël, peut-être peu de chances de réussite, mais si les autres pays autour se mettent de la partie, bien, ça peut embraser toute la région, puis c'est probablement l'objectif là-bas. Donc ça, c'est trop au niveau de tension, mais quand on est allé, nous autres, c'était quand même pas si pire, là. Fait qu'on a pu y aller quand même, sinon ces temps-ci, des tours organisés, des choses comme ça, ça doit pas avoir lieu certainement, là. Mais pour ce qui est d'Israël comme tel, le territoire et le peuple, c'est le plan de Dieu. Si on est d'accord avec ça, le territoire ou le peuple comme tel, c'est dans le plan de Dieu. Puis on sait, nous, avec nos Bibles, que ça va brasser en Israël. On le sait, c'est malheureux, mais ça a brassé déjà dans le passé. Toute leur histoire, ils ont été secoués, si je peux dire, puis ça va s'empirer avec le temps. On voit ça dans nos Bibles. Mais on sait quand même une chose, c'est qu'à la fin, ils vont triompher. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, en fait, le but ultime, c'est qu'Israël se tourne vers leur Messie. Ils n'ont pas reconnu leur Messie, mais quand il va se retourner vers lui, quand le peuple va se retourner vers lui, ça va changer complètement. J'aimerais qu'on lise quelques versets dans Zacharie par rapport à ça. Peut-être pas nécessaire de tourner tout le monde. J'ai quelques références quand même à regarder, les éléments de ce qui s'en vient. Donc, le premier, c'est dans Zacharie 12. Je lis les versets 9 à 11. Je laisse quelques instants. Donc, versets 9 à 11. En ce jour-là, on parle de la fin, là. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est surtout ce passage-là que j'avais en tête. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adad-Rimmon dans la vallée de Megiddon. Donc, c'est ça l'objectif, c'est qu'Israël se tourne vers le Messie. Puis, quand ça va arriver, ça va brasser, mais quand, comme nation, ils vont se tourner vers lui, tout le déroulement de l'histoire va changer. Puis le Seigneur va prendre, on va dire, personnellement soin de son peuple à ce moment-là. Puis un autre passage que j'aimerais qu'on lise dans l'Apocalypse, j'aurais pu en choisir d'autres. J'ai pris celui de l'Apocalypse, qui est un encouragement pour nous aussi, pour Israël certainement. Israël ne lit pas vraiment le Nouveau Testament, mais on sait que c'est un encouragement pour eux et pour nous. Donc, Apocalypse 19, les versets 11 à 16. Donc, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Donc c'est ça le but, c'est d'amener Israël. Israël, c'est malheureux ce qui se passe avec eux autres, mais on sait qu'ils vont être persécutés, mais un jour ils vont reconnaître le Messie, puis le Messie va venir en prendre soin, puis quand on a lu dans l'Apocalypse, bien, ça nous touche aussi quand même, là. Donc, c'est encourageant. Même si on sait que ça va brasser pour le peuple, on sait que la fin, c'est encourageant. Je vais un peu plus dans les généralités sur Israël. Donc, l'État a été fondé en 1948, juste après la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment de choses positives qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, mais si on disait qu'il y avait quelque chose, c'est qu'au moins, il y a un État qui a été fondé pour ramener Israël à quelque part, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens étaient bien malheureux de tout ça, mais les gens ne voulaient pas plus avoir les Juifs chez eux. Donc, l'État a été fondé. Puis depuis ce temps-là, ben, les Juifs sont en Israël. Même si on sait que ça a toujours été la terre promise, puis tout ça, là, les plans de Dieu. Mais bon, les hommes ont redonné à Israël, disons, un peu plus formellement l'État en 1948. Puis, c'est intéressant quand on voit là-bas en Israël, parce que, tu sais, la majorité des événements de la Bible se sont passés là. Puis, il y a aussi un paquet d'événements historiques qui se sont passés là. Il y a eu l'histoire quand même, là, entre, mettons, l'an 100... Et 1948, il y a eu un paquet de choses qui sont passées quand même. Des empires qui ont essayé de prendre la place, tout ça, parce que c'est un endroit stratégique. Fait qu'il y a un paquet de choses qui se passent là-bas. Donc, partout où on se promène, il y a un événement historique ou biblique, là. Donc, c'est vraiment intéressant, là. Surtout la partie nord d'Israël. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, donc, le Seigneur s'est promené là. Les prophètes aussi. Un paquet d'histoires qui viennent de là-bas. Puis, mais on sait une chose, c'est que dans le territoire, le Seigneur leur a donné, puis on voit ça partout dans l'histoire des Juifs, dans l'Ancien Testament, il donne des bénédictions, mais il avertit pour des malédictions, hein, en voulant dire, si vous me suivez, ça va bien aller, vous allez dans le pays. Il avertit après ça, que si ça va pas bien, puis tout ça, il envoie des prophètes, mais ça va pas bien, je vais vous sortir de là. Je voudrais qu'on regarde aussi quelques versets dans Deutéronome, par rapport à ça, Deutéronome 28. Il y a un paquet de passages que j'aurais pu prendre aussi par rapport à ça. C'est un des thèmes principaux des prophètes, là, d'annoncer les malédictions, bénédictions. Donc, s'ils ne suivent pas le Seigneur, ça va moins bien aller, etc. Puis l'histoire d'Israël, on le montre, on le voit vraiment. Donc, dans Deutéronome 28, je lis les versets 63 à 65. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même, l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Tout ça, ça fait partie de l'histoire d'Israël. Puis on sait qu'effectivement, ils n'ont pas toujours suivi Israël pour différentes raisons. Je vais y revenir aussi, mais on sait que donc le royaume d'Israël, le royaume du Nord, comme on dit souvent, a été déporté vers la Syrie. Juda a été vers Babylone. En l'an 70, le temple a été détruit, donc les Juifs n'avaient plus d'endroit pour sacrifier officiellement, donc pour faire leur religion. Donc, mais c'est sûr qu'il y a toujours eu des empires, même quand ils étaient là-bas, il y a eu des empires grecs, il y a eu romains, fait qu'ils étaient sur le territoire, tout ça, sont venus, mais ils n'ont jamais pris pleinement possession, ils ne sont plus comme en contrôle d'Israël depuis vraiment longtemps. Donc, puis comme je disais tantôt, en 70 puis 48, moi j'en parlerai pas beaucoup, mais il y a eu beaucoup d'histoires. Moi, j'y toucherai pas. Mais ce qu'on a vu là-bas, c'est que même dans le Moyen Âge, on en parle moins dans la Bible puis tout ça, mais les Juifs, il y avait pour les reconnaître, déjà là, il y avait l'antisémitisme au bout, puis il y avait des chapeaux, mais genre chapeaux de clown, là. Fait que c'était un pour les reconnaître, mais aussi pour les humilier. Fait que dans toute l'histoire, même s'il y en avait qui étaient présents en Israël, ils étaient comme pas vraiment chez eux ou maîtres chez eux, si je peux dire. Donc ça, je vais en parler moins de tout ce pan d'histoire-là entre l'an 70, 100, jusqu'à 1948, mais il s'est passé des choses beaucoup là-dedans. Donc, Dieu a choisi Israël comme peuple, mais aussi tout ce qui se passe, la localisation, tout ça, c'est pour une raison précise. Puis c'est à partir de maintenant que je vais prendre quelques photos. Donc, si je fais le share, ça fonctionnait bien tantôt, donc en principe, normalement, oui, on est confiant. Je vais le mettre en mode présentation. Ça semble bon, hein, Mario? Parfait. Fait que là, j'envoie quelques photos pour mettre en contexte aussi. Donc ça, le premier, c'est assez simple. C'est juste pour situer un peu sur la map où est Israël, donc à droite de la Méditerranée, tout ça. Donc on voit un peu l'idée. Aussi, ça, on appelle ça le croissant fertile. Donc, c'est important. Puis même les évolutionnistes, là, les athées, les païens, puis là, comme vous voulez, c'est le berceau de l'humanité, c'est assez bien reconnu que c'est là que ça s'est passé. Là. On a appris ça à l'école, malheureusement, mais c'est en Mésopotamie, c'est là que les premiers hommes seraient arrivés. Mais pour l'histoire même biblique, il y a énormément de choses qui se passent là. Là, j'ai pas de pointeur laser, mais de ce côté-là du croissant, là, proche du golfe Persique, ça pourrait être là qu'était le Jardin d'Éden. Mais c'est là qu'était Abraham, certain. La ville de Ur, c'est dans ce coin-là. Là. J'ai pas de pointeur, mais c'est la partie de droite, si on veut. Puis, donc on sait que Dieu a appelé Abraham à faire un peu tout le croissant fertile, mais pour aller dans le coin d'Israël, là, finalement. Donc, Dieu a amené Abraham dans ce coin-là. Et c'est un endroit qui est extrêmement stratégique, pour différentes raisons. Ça ici, on le voit bien, c'est pas le plus beau schéma que j'ai trouvé sur Internet, mais c'est ce que ça veut dire. C'est extrêmement important comme région, parce que vous voyez, l'Europe, l'Asie puis l'Afrique, fait que c'est un centre de commerce. Les gens passent par Israël, le territoire. Tous les gens passent par là, surtout à l'époque où il y a la Méditerranée, tout ça, mais sinon, t'as un passage, t'as un désert infranchissable à droite, t'as une chaîne de montagnes qui est un peu à gauche, entre la Méditerranée puis le désert, fait que sinon, t'as une bande de terre qui est finalement Israël, puis c'est par là que les nations passent. Donc, c'est stratégiquement extrêmement important. C'est une des raisons pour laquelle il y a eu beaucoup de guerres dans l'histoire. Les empires qui veulent dominer, ben ils ont d'affaires à avoir cette zone-là, parce que tu contrôles le commerce de toutes les nations, finalement, là. Les trois grands continents, en plus de la région. Donc, c'est extrêmement important. Puis le but de Dieu, d'avoir un peuple, c'était pour annoncer la parole aux nations. On n'ira pas lire nécessairement, mais dans Romains, Paul va dire, l'avantage des Juifs et des grands, c'est d'annoncer les oracles de Dieu aux nations. Je paraphrase un peu, mais c'est ça que ça veut dire, là, quand Paul parle dans Romains. Donc, c'était le rôle principal. Puis, stratégiquement, Dieu n'a pas mis son peuple là pour faire de la business, mais pour son plan, c'est extrêmement important. Un petit peuple que tu enverrais partout dans le monde, c'est pas super efficace. Mais à la place, toutes les nations passaient par Israël. Donc, comme plan, c'est encore plus important. Là. Le but, c'est que les nations font du commerce, passent par là, entendent parler des oracles de Dieu, retournent chez eux avec la parole qu'ils ont entendue. On voit ça ailleurs dans la Bible. Entre autres, quand le Seigneur va guérir un possédé démoniaque ou un paralytique, je pense, c'est un possédé. La personne, une fois guérie, va dire, je veux te suivre. Non, non, on retourne chez vous. Je pense qu'il vient de la décapole, puis dis ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est la même idée. Retourne chez vous, puis parle dans ta maison. C'est la même idée. Paul va faire à peu près ça quand il était à Éphèse pendant 2 ans. On dit que pendant 2 ans, toute la région a entendu parler Paul. Mais on sait que Paul, il avait loué une école, là, dénommée Tyrannus. Fait que Éphèse, c'est une ville de commerce aussi. Fait qu'on peut penser que les gens venaient là, entendaient Paul, retournaient chez eux. Ce qui fait qu'après 2 ans, toute la région d'Éphèse avait entendu parler de la parole de Dieu. C'est un peu la façon de faire. Puis on a encore d'autres exemples. L'eunuque éthiopien, entre autres. Il est allé à Jérusalem. Il s'est pris un rouleau du livre. Il y avait des questions, tout ça. Philippe est envoyé vers lui. Il lui a expliqué tout ça. Puis il retourne chez lui en Éthiopie avec la parole de Dieu. Donc, stratégiquement, le plan de Dieu, on peut penser que c'est ça. Il a mis Israël là pour une raison précise. J'amène les nations vers vous. Donnez-leur la parole de Dieu. Ils vont retourner chez eux après, puis ils vont répandre la parole de Dieu. Donc, c'est une façon de faire qui est très efficace. Aussi pour montrer à l'époque, Israël aujourd'hui n'est pas exactement comme c'était à l'époque. À l'époque, il y avait 2 tribus ennemies à l'est du Jourdain. Je n'ai pas de pointeur, mais du Jourdain, vous voyez un peu le... Pas facile, mais où c'est marqué Moab et Édom, juste à gauche, il y a le Jourdain. Là. Mais aujourd'hui, il n'y a à peu près plus rien d'Israël à l'est de ça. Il y a une bande de terre qui est en haut à droite. Si vous voyez l'autre image, je n'ai pas de pointeur, mais en tout cas, où la Syrie, là, il y a une bande de terre que dans une guerre qu'il y a eu entre Israël, l'Égypte, la Jordanie puis la Syrie. Ils ont pris une bande de terre entre eux et la Syrie, puis ils l'ont gardée parce que la Syrie qui bombarde souvent, ça fait comme une zone tampon. Sinon, il n'y a rien à l'est du Jourdain, mais il y a une grande partie qui est au sud, la pointe verte, si on veut, là, qu'on appelle le Negev, c'est du désert, mais il y a très peu de monde qui sont là, les Bédouins, entre autres, qui sont là, mais ça fait une grande superficie, ça double presque Israël, mais il y a très peu de monde qui vivent là-bas. Là. Donc, mais c'est ce que ça a l'air aujourd'hui, Israël. Puis là, pour la suite, mon but, c'est pas juste d'envoyer des photos, c'est de mettre un petit contexte sur des villes importantes pour bien comprendre Israël. Ça, c'est, bon, en zoomant un peu, ça fait un peu moins propre, mais c'est juste pour montrer à peu près le parcours qu'on a fait. C'est un tour guidé qu'on a pris. Puis je le recommande, Israël, c'est assez complexe, là. Fait que, c'est hébreu ou arabe, peu d'anglais, mais il y a tellement de choses à voir que c'est pratique d'avoir un guide. Nous, c'était un guide français, un guide juif, fait que c'était super. Là. On était un petit groupe de 11. Ma famille de 4, il y avait un couple de chrétiens, puis 5 autres personnes. Donc, c'était un beau petit groupe, là, c'était le fun. Puis d'avoir un guide juif, c'est le fun. Un guide chrétien, ça aurait été super aussi, mais un juif qui connaît le territoire, qui est là depuis longtemps, depuis 20 années, c'était vraiment intéressant. Fait que c'est le parcours qu'on a fait. Moi, je dis certains éléments pour, englober notre culture générale sur Israël. Donc, le premier, c'était Tel Aviv. Ça, c'est pas moi qui l'ai pris, celle-là. Tel Aviv, c'est une ville extrêmement importante en Israël, quasiment une station balnéaire à la limite, là, mais c'est beaucoup plus jeune, c'est moins religieux, Tel Aviv. Peut-être même des Européens pourraient aller là pour un genre de tout inclus s'ils voulaient. Là. Nous autres, c'est loin d'aller là pour ça, puis ça n'a pas rapport. Là. On a des Caraïbes pas loin et tout ça, mais Tel Aviv est un peu différent du reste d'Israël, si on veut. Là. Nous autres, ça faisait bien d'arriver là, l'aéroport est là. Puis c'est quand même, c'est 7 heures de décalage quand même, Israël. Ça fait que c'est le fun d'avoir un petit répit en arrivant. Puis, l'avion, c'est 11 heures de vol à peu près, là. Ça se fait super bien, là. C'est pas un voyage comme dans le temps d'Abraham, mais quand même, on avait une demi-journée de libre, en fait, une journée et demie de libre au début, avant que le tour guidé commence. Puis honnêtement, ça fait vraiment bien pour se refaire une santé un peu, là, après le décalage, puis tout ça. Là, je défile tranquillement. Ça, c'est au sud de Tel Aviv. En fait, c'est la ville de Jaffa. Puis en fait... ce qui est important aussi, c'est que souvent, les noms des villes ont changé. Fait que quand on prend nos Bibles, des fois, on retrouve pas ça. Il y a des guides qui se vendent, qui se donnent. Moi, j'en ai acheté quelques-uns, là, puis qui donnent, mettons, les récits qu'il y a eu à tel endroit, mais avec les noms aussi des villes. Jaffa, dans la Bible, à ma connaissance, c'est Jaffo. Je retrouve mes notes tranquillement. J'ai un peu quitté mes notes. Des fois, c'est pas super. Puis, je vais revenir après ça. J'avais quelque chose que j'ai oublié. Mais la ville de Jaffa... Je vais compléter cette partie-là, parce que je vais backtracker un peu. Ça s'appelait Jaffo, dans la Bible. Donc, Jaffa, Jaffa, c'est pas pire. Puis, si je pose une question, il y a un événement important qui s'est passé là-bas. Il y a quelqu'un qui s'en souvient? Bon, vite de même, c'est un peu tannant, mais c'est Jonas. C'est un port de mer, ça, cet endroit-là, juste au sud de Tel Aviv. Puis, notre ami Jonas est parti de là, là. Dieu, il a dit, va-t'en au nord-est, à Ninive. Il est parti à l'opposé, au sud-ouest. Puis, il a pris le bateau, puis il est parti là, puis on connaît l'histoire. Donc, ça, c'est un peu l'histoire. C'est une très vieille ville, là, Jaffa, un vieux port aussi qui est là. Là, je fais un petit backtrack, là, j'ai oublié de le dire tantôt. Dieu a placé Israël à un endroit précis pour une raison, c'est d'amener les nations vers eux, mais il y a une autre raison aussi, c'est l'eau. L'eau potable, nous, c'est bien, l'eau douce, si on veut. Nous, c'est pas un enjeu au Québec, là. On dit 6 millions de lacs, donc à peu près une personne, un lac au Québec, fait qu'on n'a pas d'enjeu de se procurer de l'eau. Mais à l'époque, c'était vraiment important. Puis ça, c'était important pour le peuple aussi. Puis c'est ça que je voulais dire, parce que c'est vraiment important. Puis c'est pour ça que souvent, les gens, quand il y avait de la famine, c'était un test de foi, un peu, l'eau. Parce que on le voit Abraham. Abraham est allé en Égypte. À un moment donné, il s'est pas fait demander d'aller en Égypte. Il est allé pareil. Le peuple, quand Moïse les a aidés, ben, c'est Dieu qui les a sortis. Mais sous la gouverne de Moïse, il était dans le désert. Dès qu'il y avait un problème d'eau, famine potentielle, il regardait toujours vers l'Égypte. Pourquoi? L'Égypte, il y a toujours de l'eau. Il y a eu des famines, mais à cause du Nil, il y a toujours de l'eau en Égypte. Fait que c'est facile pour eux. C'est comme apaisant. T'as pas besoin d'avoir la foi pour ça. Alors qu'en Canaan, il y a une petite bande d'eau, là. T'as le lac de Tibériade, t'as le Jourdain. Puis c'est important, mais ça peut pas, ça rentre dans une vallée, là. Tu peux pas nourrir toute la région avec, ou approvisionner en eau tout ce monde-là. Fait que l'eau est un problème. Fait que quand t'es à Canaan, ben, faut que tu dépendes des précipitations. Donc, faut que tu dépendes de Dieu. Puis ça a souvent été un test. Élie, je pense que c'est Élie qui a fermé le ciel pendant comme 3 ans. Donc ça, c'est un test, tout le temps de regarder vers l'Égypte. Quand les gens étaient là, les Juifs, maintenant, quand il pleut pas assez, ils commençaient à regarder vers Baal, B-A-A-L, là, un dieu païen, un faux dieu païen, parce que les gens de la place priaient Baal pour avoir de l'eau. Fait que quand il pleut pas, ils disaient, bon, ben regarde, petit test de foi, Dieu ne donne pas d'eau, on va prier Baal. Fait que ça les a amenés même vers l'idolâtrie, tout ça. Là. Donc, quand tu es à Canaan, c'est désertique, ça te prend de la pluie. S'il pleut pas, ça va pas bien, mais pour avoir de la pluie, l'idée, c'est de dépendre de Dieu puis de prier pour avoir de la pluie, parce que c'est Dieu qui est en contrôle. Donc, c'est extrêmement important. C'est une des raisons qui est une tentation dans leur test de foi. C'est pour ça, entre autres, que les Juifs regardaient souvent vers l'Égypte. Parce que, avec le Nil, ça va bien. T'as toujours de l'eau. Fait que, je dis pas qu'il n'y a pas eu de famine en Égypte. On voit ça avec Joseph. Mais c'est beaucoup plus tranquille en Égypte par rapport à ça, parce que t'as toujours de l'eau en abondance. Puis ça, c'est important parce que, comme je disais, c'est un test de foi. Puis je donne un exemple. De test de foi, c'est l'exemple de Lot avec Abraham. Puis le résultat des deux est considérable. On voit la différence. Peut-être pas nécessaire d'y tourner, mais c'est au début de nos Bibles, dans Genèse. Puis ça explique très, très bien mon point. Genèse 13, je lis deux versets, les versets 10 et 11. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Donc, un petit contexte. Lot et Abraham, ils ont beaucoup un gros troupeau. Puis à un moment donné, ça va pas bien, il faut qu'ils se séparent, c'est trop nombreux. Donc, Lot, Abraham va dire à Lot, décide où toi tu veux aller, puis je vais prendre le reste. Puis Lot, il marche pas par la foi, il marche par la vue. Lot leva les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Non, c'est ça le propos, exactement. Il faut qu'il choisisse, il est allé par la vue, il a pris la vallée du Jourdain. Mais oui, c'est ça, humainement parlant, c'était le meilleur choix à faire. Mais juste dans la vie des deux, on voit Lot, il est considéré comme un juste, mais tu sais, sa vie est quand même pas... c'était plus compliqué, si on veut, alors qu'Abraham est considéré comme un héros de la foi. Donc, un avait la partie beaucoup plus facile, arrosé du Jourdain, il y a de l'eau en abondance, tout ça. L'autre, partie beaucoup plus difficile, dépendance de Dieu, puis ça fait un meilleur résultat. Dans le cas d'Abraham que pour Lot. Donc, c'est ça que je voulais dire, que j'ai oublié un peu tantôt. Donc, il y a deux raisons principales pourquoi Dieu a mis les nations, a mis Israël là, annoncer la parole aux nations, puis aussi un test de foi et de dépendance, parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est un désert. Fait que, sois dépendant, puis attends-toi de moi pour avoir toutes les bénédictions, dont la pluie. Bon, là, je reviens un peu dans... C'est ça qui arrive quand on ne suit pas tout le temps nos notes. J'y reviens. Donc, après... Là, on monte vers le nord, on était à Jaffa. On monte un peu au nord, on est à Césarée ici. Césarée, c'est une ville qui a été bâtie par Hérode. Hérode, c'est pas, on s'entend que c'est un méchant, là. C'est pas un chic type, mais en termes d'architecture puis de génie civil, il était quand même fort. Tu sais, il faut lui donner ça. Fait qu'au moins dans l'histoire, il aura fait ça, malgré que c'était pas un charmant individu. Puis ce qu'il a voulu faire à Césarée, c'est de faire un petit Rome, là, si on veut, qui était là-bas. Puis il voulait entre autres faire un port de mer pour concurrencer Alexandrie, qui était un peu plus bas dans la Méditerranée qu'on a vu tantôt. Là. C'était le port principal de ce coin-là. Sauf que c'était pas une belle place pour ça. Vous voyez en bas à gauche, d'habitude, un port, t'essaies d'avoir de l'eau profonde qui arrive jusqu'à la terre, si tu veux, pour pouvoir que les bateaux, c'est plus facile. Là, il n'y a pas vraiment d'eau profonde. Là. C'est comme un haut fond, tout le long de roches, là. Mais il a réussi. Là, c'est des ruines aujourd'hui, mais il a quand même réussi. Il y a des bassins d'eau qui rentraient tout, puis il a réussi à faire un port pendant pas longtemps, mais qui a quand même fonctionné. Fait qu'on voit là-bas, c'est intéressant, mais c'est vraiment comme romain, si on veut. Donc, il y a un théâtre, il y a un hippodrome. En haut à droite, c'est plus l'hippodrome, en haut à gauche, c'est plus le théâtre, qui a un nom à ça, je me souviens plus du nom, mais... Amphithéâtre, c'est ça, puis ils sont pas entiers, c'est juste une moitié. Le Colisée de Rome, c'est comme un rond complet, ça, c'est comme une moitié, là, mais en tout cas... Puis on voit ici une citerne aussi. Fait qu'une citerne, c'est là, des fois, tu peux avoir de l'eau, ou ça sert de prison. Puis je pense qu'il y a entre autres Jérémie qui était emprisonné dans une citerne, mais ça avait l'air de ça, là, ça donne pas vraiment l'aspect profondeur, mais évidemment, quand tu es dans le fond de ça, peu de chance de t'en sortir, ça c'est sûr. Ça ici, j'ai une vidéo de ça, ça dure quelques secondes, c'est ce que ça a l'air Césarée. Évidemment, c'est des ruines aujourd'hui. Mais comme élément d'architecture et de génie civil, là, pour la place, c'était vraiment incroyable. Tu sais, quand ils mettaient le paquet, Hérode, ils mettaient le paquet. Là, on poursuit là, là-dessus, là, ça paraît pas trop en haut à gauche, mais on est sur le mont Carmel. Puis le Mont Carmel, moi je pensais que c'était une montagne, là. C'est comme le Mont Saint-Anne, puis c'est cool, mais non, c'est une chaîne de 40 km de long, le Mont Carmel. On ne peut pas savoir si c'est ici que Élie a fait descendre le feu, etc. On ne sait pas. C'est 40 km de long, ce qui est majeur en Israël, 40 km. Si on est au bout, si on veut. Puis en haut à gauche, il y a comme une vue plongeante, là, puis c'est quand même très très beau ça. C'est juste comme y a des plateaux de jardins, si on veut. Puis ça, c'est des. Pour les musulmans, c'est des baaïs. Je connaissais pas ça, les baïs, honnêtement. C'est comme une branche de musulmans, mais les autres, c'est comme leur quartier plus important de la planète. Pour cette partie des musulmans-là, c'est là. Donc, voilà pour les baïs. Là, on ne le voit pas en haut à gauche, mais il y a énormément de bateaux qui sont là, qui attendent. C'est un port extrêmement important. En fait, il y a la ville de Acre qui est en bas. Parce que juste un peu plus haut, là, en haut à gauche, là, c'est le Liban. Là. De là, on est à peu près à une heure du Liban, maximum. La capitale, c'est Damas, de ce que je me souviens. Je me souviens de Beyrouth. Oui, donc c'est Beyrouth, je pense. Je mets les deux souvent, je ne suis pas habitué du Liban. Mais donc, on n'est pas loin de là, puis c'est un port extrêmement important, fait qu'on voit, il y a plein de bateaux dans l'eau en haut à gauche. Sinon, la ville qui est là, c'est Saint-Jean d'Acre. Puis, bon, tu sais, j'en parlerai pas longtemps, c'est juste que c'était important. Je pense qu'il y a eu des guerres contre Napoléon dans ce coin-là. Comme je disais, il y a partout, il y a des choses historiques très importantes. Puis il y avait un paquet de souterrains aussi, quand les personnes qui étaient là à l'époque ont tenu tête à Napoléon, etc. Donc voilà pour Saint-Jean d'Arc, mais c'est un port extrêmement important encore aujourd'hui. Puis dans la Bible, Saint-Jean d'Arc, on voit Ptolémaïs, Acco ou Acre. Ça, c'est des noms qu'on voit plus là, dans les Actes, entre autres. Là. Ça, c'est important, comme je disais tantôt, des fois, de savoir la corrélation entre les noms. Là. Sinon, on s'y perd encore plus. Je poursuis assez rapidement. Ça, je voulais juste donner un petit mot aussi pour les kibbutz. Moi, je connaissais pas très très ça, les kibbutz. Ça fait une petite parenthèse générale pour connaître Israël aussi. Puis je vais vous lire mes notes, ça va être plus simple. C'est le plus large mouvement communautaire au monde. Le premier kibbutz, c'est en 1910. Il y en avait 270 en 1991 pour environ 130 000 personnes. Donc, c'est quand même pas rien. Puis chaque kibbutz est autonome socialement, économiquement. Il y a un fort esprit communautaire. C'est une décision par les membres. Donc, il y a des gens, à notre assemblée, Jean-Paul Gosselin est allé là, quand tu étais plus jeune, passé une couple de mois, tu peux être comme logé nourri, tu reviens dans un kibbutz, là. Donc, tu as des temps libres, etc. Donc, certains jeunes chrétiens sont allés. Puis, c'est intéressant, moi, je peux pas dire que je connaissais ça énormément. Donc, à la base, c'est d'agriculture. Plusieurs survivent aussi à cause du tourisme aujourd'hui, là. Fait que c'est pas tellement religieux, ça dépend des membres. C'est comme des petites communautés, puis... Donc, voilà, kibbutz. Donc, voilà. C'est encore important là-bas, là. Même s'il y a moins de monde qu'avant. Ça, je parle de... Là, je vois pas mon nom ici. Ah ouais, c'est Safed. La ville de Safed, je passe rapidement aussi. Donc, on voit un peu le genre de vieille rue, là. C'est vraiment impressionnant. Puis, en bas, à gauche, dans le milieu, c'est une très vieille synagogue. Puis c'est le 16e siècle quand même. C'est le 16e siècle, juste pour nous autres, on dit Québec a 425 ans à peu près. C'est 1608. Ça, c'est quand même le 16e siècle. T'sais, c'est la notion de temps complètement différente là-bas. Là. Il y a de l'histoire. Eux autres, c'est vieux, mais pas tant, 16e siècle. Puis donc voilà, donc c'est intéressant. On a pu rentrer là dans une synagogue. Il faut être vêtu comme il faut, puis tout ça. Puis nous ont donné une kippa, il me semble. Un petit kippa. C'est ça, pour suivre les traditions de la place. Puis ce qui est intéressant, ça fait, puis ça aussi, c'est une petite culture générale, petite parenthèse, culture générale. Moi, j'avais jamais entendu, à ma connaissance, parler de Kabbale. Kabbale, ça vous dit quelque chose? Kabbale, K-A-B-B-A-L-E. Ça me disait rien. Fait, je vais lire mes notes, c'est plus simple. Des fois, on veut faire plus précis, puis c'est plus long, puis moins clair. Mais je vais lire mes petites notes là-dessus. Tradition ésotérique du judaïsme, traditionnellement présentée comme la loi orale et secrète donné par Yahvé à Moïse sur le mont Sinaï. Donc, toi, on comprend, la loi, c'est plutôt un peu... qu'elle a été donnée en même temps que la loi écrite et publique, qui est la Torah. Bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais il y a certains juifs qui y croient. Selon ses adhérents, la compréhension intime et la maîtrise de la Kabbale rapprochent spirituellement l'homme de Dieu, ce qui confère à l'homme un plus grand discernement sur l'œuvre de la création par Dieu. La Kabbale peut se définir comme un ensemble de spéculations métaphysiques sur Dieu, l'homme et l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Bref. Puis là, on a quand même plusieurs familles d'Africains à Sainte-Foy. Puis il y en a qui disaient que, tu sais, il y a peut-être une historique un peu plus ésotérique en Afrique, là. Je suis pas un expert d'Afrique non plus, mais, puis il y a des assemblées chrétiennes qui font pousser un peu l'idée du Kabbale. Ça fait que c'est, je dis ça, j'en dis pas plus là-dessus, là, c'est juste. Mais il y a des Juifs qui trippent là-dessus. Puis ça, c'est le haut lieu de la Kabbale à Safed. Bon. Donc, si quelqu'un vous en parle un jour de Kabbale. Là, ici, c'est le lac de Tibériade qu'on voit. Puis à droite, ce que je voulais mentionner par cette photo-là, c'est qu'il y a beaucoup de sites traditionnels. On dit que, par exemple, ça, c'est là qu'il y a eu le sermon sur la montagne. C'est, selon eux autres, c'est le mont des Béatitudes. Mais c'est-tu là? C'est-tu à côté? On ne sait pas, mais quand les religions pensent que c'est à un endroit, ils mettent une cathédrale. Donc là, traditionnellement, ce serait là que le Seigneur aurait fait le sermon sur la montagne. Il s'est bâti une cathédrale. Vous voyez un peu l'idée, c'est de même partout. Là. Dès qu'il y a un site potentiel religieux, il y a une cathédrale qui est là. Mais c'est-tu vraiment là? Est-ce que c'est vraiment important de savoir si c'est cette montagne-là ou l'autre? C'est pas plus. Mais les religions... Petite vidéo aussi de qu'est-ce que ça a l'air, le lac de Tibériade, qui est quand même très, très gros. Très gros, disons, c'est rien comparé au lac Saint-Jean ou quelque chose, mais c'est quand même pas un petit lac, là. Un très bel endroit. Je continue, la ville de Capernaum. Capernaum, on se souvient que mon Seigneur est né à Bethléem, il séjourne en Égypte, Nazareth. Son quartier général, si on veut, c'est à Capernaum. Donc, c'est une vieille ville. En bas à droite, vous voyez une synagogue. Tu sais, la partie d'en haut, là, vous voyez comme une démarcation là, un peu, là, ce qui est des plus gros blocs, c'est du 4e siècle. Donc, c'est quand même très vieux. Mais ce qui est en bas, c'est du temps du Seigneur. Donc, c'est très, très vieux, là. Fait qu'ils ont comme bâti par-dessus, si on veut. Puis, en haut à droite, encore là, comme je disais, là, ils pensent que c'est la maison de Pierre, Simon-Pierre, parce qu'ils ont trouvé des petits symboles chrétiens, puis tout ça. Bon, fait qu'ils pensent à la maison de Pierre, fait que tout de suite, par-dessus, ils ont mis une cathédrale. Bon, sur la photo d'après, vous allez le voir. Puis, donc, il y a des choses religieuses, là, comme le fameux Pierre avec un grand bâton, puis des clés. Donc, c'est un peu religieux, on s'entend. Mais c'est très historique. Là, j'ai d'autres photos ici. Vous voyez en bas à droite, c'est des ruines. Ça, c'est du temps du Seigneur. Donc, c'est très, très vieux. En haut, c'est la synagogue. Évidemment, on voit le style romain. Ça, c'est la partie du 4e siècle. En bas à gauche, on voit, moi j'en parlerai pas beaucoup, là, mais il y a des ornements, là, on voit un peu la menorah qu'on dit, là, la chandelier à sept branches. Mais ça, il y en a plein de choses comme ça, là, pas des artefacts, mais des vieilles choses super vieilles, qui sont superbes. Puis en haut à gauche, ben, c'est ça, c'est en haut de la maison, de ce qui aurait été la maison de Pierre. Il y a une cathédrale maintenant dessus. Là. Donc ça, on voit ça partout. Ça, je passe très rapidement aussi pour faire une allusion, là, c'est que ça, c'est le plateau du Golan. C'était en Syrie, mais c'est la partie tantôt que je disais que là, l'Israël le garde parce qu'il se garde une zone tampon. Puis pourquoi je le mentionnais, on n'allait pas en Israël pour déguster du vin, là, on s'entend, mais c'est parce que c'est important quand même de connaître ça dans la culture générale d'Israël. Seigneur va faire allusion extrêmement souvent à des choses que les gens connaissaient dans ses paraboles, dans son enseignement. Le vin, entre autres, ses paraboles sur le vin, les vignerons. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, c'est important de connaître justement la culture pour. Le Seigneur utilisait ça tout le temps dans son enseignement, dans ses paraboles. Un petit mot sur la Cisjordanie, là, évidemment, on entendait encore plus souvent parler aux nouvelles ces temps-ci, fait que je vais aller très rapidement, mais il y a beaucoup, en fait, là, c'est très majeur, là, d'ailleurs, là, si vous regardez à gauche, que je vous disais, dans toute la partie en bas, c'est un désert, fait que tout ce qui se passe vraiment, c'est en haut, puis c'est important, la Cisjordanie, en termes de géographie, là, c'est très, très gros, donc c'est la Palestine occupée, donc je vais vous lire, j'ai un petit quelque chose, un petit paragraphe aussi, des fois c'est la même chose, là, des fois on essaie d'être plus clair, puis ça ne l'est pas, fait que j'ai deux petits paragraphes en parlant de la Cisjordanie. Territoire délimité par la ligne d'armistice du 3 avril 1949. Le territoire est peuplé de Palestiniens, donc environ 2,8 millions, et de 710 000 Juifs. Donc quand même, 710 000 Juifs, c'est majeur. Il me semble que si j'étais Juif, je n'irais pas en Cisjordanie, mais ça grossit énormément. En 1967, il y avait moins de 5 000 Juifs en Cisjordanie, et les Palestiniens étaient environ 700 000 habitants. Fait qu'on voit la démographie explose, mais entre autres chez les Juifs, là. Il y a les Juifs qui vont là, on appelle ça les colonies juives. Lors de la guerre des six jours, en 67, Israël occupe toute la Cisjordanie. Entre 90 et 2001, le statut et le partage du territoire de Cisjordanie ont fait l'objet de négociations infructueuses entre l'autorité palestinienne et Israël. Depuis 2002, à la suite d'une vague d'attentats suicides, on comprend l'idée, perpétrée par les Palestiniens, Israël édifie en Cisjordanie une barrière de séparation sous la forme d'un mur en béton ou sous la forme de barrières hautes pour lutter contre les intrusions de terroristes palestiniens sur le territoire israélien. Donc, c'est vraiment, il y a des barrières, il y a une frontière. On voit en bas à gauche, quand tu rentres en Cisjordanie, il y a une frontière avec des gardes israéliens armés. Donc, voilà. Puis, il y a beaucoup de villes importantes pour un chrétien qui sont en Cisjordanie. Nazareth, Jéricho, Bethléem. On n'est pas allé, mais tu as aussi Hébron qui est là. Donc, tu sais, c'est majeur, là, le territoire de Cisjordanie. Puis, c'est pas le fun. On s'entend que dans l'histoire, les Juifs ont été beaucoup plus opprimés que l'inverse, là, que étant oppresseurs. Sauf que, tu sais, c'est pas simple. On est allé, hein, à Bethléem, notamment. Puis, c'est pas simple pour les Arabes qui vivent là. Le veux pas. Tu es moins payé. Quand tu sors, tu te fais contrôler. L'électricité, l'eau, tout ça. C'est quand même pas simple d'être opprimé. Même si nous autres, on a plus un penchant juif, là, mais il y a quand même, tu sais, il y a une tension potentielle qui est là quand même, évidente. Je vais vite ici aussi, c'est que ça, c'est l'Annonciation, on est à Nazareth, donc Nazareth est en Cisjordanie aussi. Donc la cathédrale en haut à gauche, c'est sur le site traditionnel où Marie aurait entendu parler l'ange Gabriel. Ça, c'est pas dans la Bible, mais ça serait dans une grotte, elle serait allée chercher de l'eau, selon la tradition. Puis c'est là que Gabriel lui aurait parlé. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais bon. Les autres, ils croyaient ça, fait qu'ils ont mis une méga cathédrale là-dessus. Là. C'est peut-être des basiliques, là, le nom m'échappe des fois entre cathédrale, basilique. Donc c'est important pour eux. On est encore en Cisjordanie ici, on est à Jéricho. Ça serait le mont de la tentation. Il faut comprendre qu'à Jéricho, on est vraiment proche du Jourdain. Le Seigneur s'est fait baptiser, il a été tenté dans le désert, il a passé par sa chaîne de montagnes-là pour y aller. Selon les traditions, ça serait le mont de la tentation. Bon, c'est-tu lui? C'est-tu lui à côté? On ne sait pas. Petite vidéo de qu'est-ce qu'a l'air Jéricho. Jéricho, c'est reconnu, c'est la ville la plus vieille du monde. Donc, les évolutionnistes, tout ça, ou en tout cas, les gens qui ne sont pas chrétiens ou juifs, ils reconnaissent que ça serait la ville la plus vieille du monde. Un paquet d'histoires qui s'est passé là-bas, évidemment, à Jéricho. Je vais vite aussi, donc le Jourdain. Ici, le Jourdain, il y a des gens qui se font baptiser, des chrétiens qui se font baptiser. Bon, c'est correct, il faut juste savoir que c'est un symbole. Là. C'est pas Jean-Baptiste, c'était pas le baptême chrétien qui pratiquait là. Puis aussi, je voulais montrer là, c'est que le Jourdain, tu sais, ça prend pas un gros miracle là, pour Josué de traverser ça dans le temps, là, on s'entend. C'est parce que le niveau du Jourdain a descendu. En haut à gauche, là, c'est pas simple à voir, mais en haut à gauche, vous voyez comme une barre... T'sais, il y a comme un patio, si on veut, puis en bas, il y a comme une barre brune, un peu, là. Bien, ça, c'était le niveau de l'eau en 2013. Donc, il y a 10 ans, le Jourdain allait jusque-là. Fait que là, évidemment, pour l'agriculture, on siphonne l'eau, le Jourdain descend. Fait qu'on s'entend que c'était beaucoup plus gros avant. C'était peut-être pas le fleuve Saint-Laurent, là, on s'entend, mais tu sais, ça ils rapetissent le Jourdain parce qu'on va chercher de l'eau dedans. Mais c'est un superbe endroit, puis évidemment, on comprend qu'il y a beaucoup d'histoires dans ce coin-là aussi. J'accélère, il me reste pour à peu près, je dirais, 6 minutes. La région de Qumran, on s'approche de la mer Morte. Qumran, c'est là qu'ont été trouvés les manuscrits de la mer Morte. C'est extrêmement chaud, extrêmement sec, c'était dans des jarres, donc ça s'est conservé parfaitement pendant un bon bout de temps. Donc c'est ce qu'a de l'air la région de Qumran. Puis on voit la température en bas, 40, c'était typique de là-bas. La fameuse mer Morte, c'est impressionnant pour vrai. On flotte dans la Méditerranée, mais dans la mer Morte, d'abord il fait à peu près 43 dehors, puis l'eau bouille, là, fait que tu restes pas là longtemps, fait que tu vas là, tu prends ta photo, mais vraiment, quand on dit que ça flotte, c'est impressionnant, je n'avais jamais connu ça, là, t'es quasiment sur l'eau, pratiquement, là. Fait que bon, puis il y en a qui trippent, là, qui sent un petit peu de la boue dessus, puis il y a pas rien que du sel, il y a d'autres éléments minéraux, fait qu'évidemment, il y a un commerce qui se fait là-bas de ça, là. La mer Morte qui, un jour, va être assainie, hein, on sait, éventuellement bientôt. Ça, c'est Masada. C'est vraiment intéressant, Masada. Moi, je connaissais pas ça avant d'étudier un peu, avant d'y aller. C'est un palais. Je vais lire un peu mes notes, là, pour pas trop... La forteresse de Masada, c'est au sommet d'une falaise, à gauche, c'est comme la quête, là, si on veut. C'est, bon, une vue panoramique sur le désert de Judée. C'est à 2000 ans, ça, quand même. Puis c'est le plus grand château construit par Hérode. Il y avait un palais, des entrepôts, des zones résidentielles, un approvisionnement en eau extrêmement brillant quand même, là, dans le désert. Fait que la façon d'amener des milliers de gallons d'eau en haut de ça, puis de récupérer le plus efficacement possible l'eau de pluie, c'est vraiment impressionnant. Puis on voit en haut, là, en haut dans le milieu, il y a des vestiges de roches, mais tout ça c'était recouvert de je sais pas c'était quel type de roche, là, mais avec de la peinture puis tout, fait que c'était vraiment luxueux, là. Mais ça, c'est en plein milieu d'une montagne, en plein désert. Donc, très impressionnant. Ça, je vous lis une petite histoire aussi, ça sera vraiment pas long. Quelques paragraphes sur qu'est-ce qui s'est passé à Masada. Moi, je ne savais pas. Fait que, en termes de culture, c'est important à savoir. Ça nous rapproche aussi de certains éléments de la Bible. Donc, en 66, au début de la grande révolte contre les Romains, un groupe de rebelles juifs, les Sicaires du parti nommé Zélote, ça nous dit quelque chose, Simon le Zélote, prirent Masada à la garnison romaine qui était stationnée. Bref, il y avait une rébellion là, puis c'est comme les derniers... Puis les Romains n'aiment pas quand il y a une rébellion, fait qu'ils ne voulaient pas que ça dure longtemps. En 70, ils furent rejoints par d'autres Juifs et leurs familles expulsées de Jérusalem lorsque la ville fut prise par les Romains. Les Sicaires étaient sûrs que la forteresse serait imprenable car ils possédaient les armes prises à l'ancienne garnison romaine, de l'eau en quantité dans des citernes creusées dans la falaise et beaucoup de vivres dans les entrepôts de la forteresse. Donc, ils pensaient que c'était imprenable. Ils ont de la bouffe, ils sont sur le top d'une montagne, il n'y a pas de danger. La rampe qu'on voit à gauche, là, c'est sûr qu'il y a un peu de... Mais il y a une rampe là, qui a été construite là, fut achevée au printemps 73, après environ 7 mois de siège, ce qui permit aux Romains d'enfoncer la muraille de la forteresse avec un bélier monté sur une tour mobile. Donc, ils ont réussi, ils ont fait pendant 7 mois une rampe, ils se sont rendus en haut. Mais quand les légionnaires pénétrèrent dans la forteresse, ils découvrirent que les défenseurs avaient mis le feu à tous les bâtiments, à l'exception des entrepôts de nourriture, et qu'ils s'étaient suicidés en masse plutôt que d'affronter une capture ou une défaite certaine. Donc, on sait que les Romains, qu'est-ce qu'ils auraient fait avec les Juifs qui restaient là, mais ce serait le dernier, on peut dire, mouvement de rébellion dans les années 70, s'est tenu là. Donc, Masada, puis là, on le voit à droite, t'sais, on voit le camp romain, fait que c'est un camp romain qui était là à l'époque. Je passe rapidement là-dessus aussi. Pour un juif, quand il s'est passé un événement important, ça devient comme un lieu saint, un peu comme une synagogue. Fait qu'en haut de à Masada, comme tel, en haut de la forteresse, tu as un rabbin et scribe qui est là, qui travaille là. Parce que les autres, c'était important quand c'est un lieu saint. Ben, lieu saint, je ne suis pas sûr qu'on dit ça comme ça, mais on voulait dire que ça devient comme une synagogue. Il s'est passé de quoi d'important. Donc, il continue un ministère dans ce coin-là. Fait que, il parlait français un peu, le monsieur, en plus, fait que... Très intéressant, très sage, le monsieur. Donc, voilà. Ça ici, je parle un petit mot, c'est un autre kibbutz. Mais là, on est dans le désert. Là. Puis dans ce kibbutz-là, c'est à En Gedi. En Gedi, vous vous souvenez un peu de quelque chose qui se passe à En Gedi? Il y a David qui se sauve de Saül. David se sauve de Saül. Il est dans cette région-là, il y a des sources d'eau. Puis c'est dans le désert, mais il y a des sources d'eau aussi. Fait que ça, c'est un jardin botanique. Puis là-dedans, il y a des semences qui dateraient de peut-être que la reine de Séba est allée voir Salomon à la portée des affaires. Puis il y aurait des arbres, je ne sais pas que les arbres sont, mais tu sais, c'est qu'ils sont là depuis aussi longtemps que 3000 ans. Puis en bas à droite, c'est un sycomore. Donc, quand Zachée, notre ami Zachée, est monté dans un sycomore, ben, ça ressemble à ça. Les dernières photos, c'est sur Jérusalem, sauf une. Donc, quand on arrive sur le mont des Oliviers, c'est ce qu'on voit. Donc, le fameux mont du Temple, ça, c'est un cimetière qu'il y a là aussi. J'y reviens juste avant, c'est la dernière chose qui n'est pas de Jérusalem. C'est Bethléem. Donc, Bethléem qui est en Cisjordanie aussi. Donc, on voit en haut à droite le genre de mur qui est érigé autour des villes de Cisjordanie. On voit en bas, puis pourquoi je l'ai montré, c'est Nathalie. Bethléem, c'est Nathalie. Puis il y a beaucoup de, j'allais dire des babioles, je n'ai pas du sucre sur le dos de ça, mais tu sais, des affaires en or, puis tout ça, là, des ornements sacrés, puis tout ça, dans les religions. Dans Bethléem, elle en a énormément, là, parce que pour eux autres, c'est important, puis ça se rajoute. Donc voilà, l'église qui s'appelle de la Nativité. Là, ça, c'est un petit quelques secondes, notre vue du mont des Oliviers. On sait que le Seigneur va revenir là-dessus bientôt, sur le mont des Oliviers. Donc, c'est la vue qu'on a aujourd'hui. Les murailles de Jérusalem, c'est pas celle du deuxième temple. Là, c'est plus gros que c'était à l'époque. Voilà pour Jérusalem. Je vais vite aussi par rapport à ça. En bas à droite, ce serait le jardin de Gethsémané. Parce que c'est là ou à côté, on ne sait pas, mais il y a des vieux oliviers. On le voit en haut d'ailleurs. Des très vieux oliviers qui seraient là, qui auraient 1000 ans. Donc, c'est-tu là, on ne sait pas. Puis l'église en bas à gauche, un site traditionnel, donc il y a une basilique. Donc, on comprend l'idée un peu. Puis en haut à gauche, ça, c'est la porte, il l'appelle la porte d'or, je pense. Mais tu sais, c'est. Le Messie va revenir sur le mont des Oliviers, la montagne se sépare. Là, il y a une porte, là. Mais il y a les musulmans dans le temps où les Turcs qui ont dit « Ah ouais, le Messie va passer par là. » Fait qu'ils ont bouché la porte. Bon. Je comprends que c'est... Bon. Mais c'est ça. Ils ont bouché la porte qui est là. Parce que ça va bloquer longtemps. Ça, c'est qu'est-ce que ça a l'air à Jérusalem. Donc, quand on rentre en haut à gauche, nous, on rentrait souvent par la porte de Jaffa, justement. C'est le nom de la porte, là, même si ce n'est pas la ville de Jaffa du tout. On rentre par cette porte-là, puis c'est ce que ça a l'air à Jérusalem. On démarchait des souks en haut à droite, des fortifications partout. Donc, le genre de rue, qu'est-ce que ça donne? Notre guide, lui, en bas à droite, là, donc c'est un jeune, là, mais il est arrivé en Israël, il avait 19 ans, 15 ans. Puis là, il avait 35 ans après, donc ça faisait 20 ans qu'il était là. Puis en bas à gauche, la citadelle d'Antoine, Antonia. Elle n'existe plus aujourd'hui, mais sur la maquette en bas à gauche, on la voit. Puis je le disais à ce moment-là, parce que le passage juste avant, c'était Guillaume, puis dans le livre des Actes, puis on fait référence à ça. Fait qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Fait que je trouve ça intéressant. Puis elle servait à... Les Romains ne rentraient pas dans le temple, mais avec la... Donc, mais ils voulaient savoir ce qui se passait là. S'il y avait une émeute, ils auraient voulu y aller. Fait qu'ils étaient sur la citadelle qu'on construit à côté, puis si ça avait brassé dans le temple, bien là, ils seraient allés. Quelques secondes là-dessus, c'est la plus vieille, à ma connaissance, assemblée chrétienne. Elle est à Jérusalem, celle-là. Donc, on a pu y participer pendant quelques minutes. Là, le guide a donné un peu de temps à l'ousse quand on était là-bas, vu qu'on était quand même plusieurs chrétiens. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, c'est des juifs messianiques qui étaient là à ce moment-là. Il y a d'autres chrétiens plus tard, là, mais ça, c'était des juifs messianiques. Super intéressant d'entendre chanter. Des gens connaissent, mais en hébreu, c'est vraiment intéressant. En bas à gauche, des dalles qui datent du temps du Seigneur. En bas à droite, il appelle ça la Via Dolorosa, chemin de croix en français. Les rues ont changé, on n'est pas sûr de où est parti le Seigneur, de le prétoire d'Hérode ou citadelle d'Antonia, où il allait, etc. Fait que c'est probablement pas par là qu'il est passé, mais ils ont fait quand même une route qui s'appelle Via Dolorosa avec des stations. Il serait tombé ici, il est tombé une deuxième fois là, etc. Bon, c'est traditionnel. En haut à gauche, c'est le Saint-Sépulcre qui appelle, donc c'est... C'est traditionnel, mais il y a quand même des fortes chances que ce soit le Golgotha, là, finalement, là, que ce soit là que ça se passe. Mais tu n'arrives pas là et tu te dis, ah, il y a une petite colline, puis on va voir. C'est, non, il n'y a plus. Un, la ville s'est développée par-dessus. Puis deux, ben, ils ont mis une cathédrale dessus quand même. Fait qu'on n'a plus l'impression d'un lieu de crainte du tout. Mais tu sais, ça pourrait être plus que traditionnel. Il y a des fortes chances que ce soit là que quand même les derniers temps du Seigneur. Puis en bas, à gauche, en bas. Ce que je voulais mentionner par là, c'est quand on dit que les religieux, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils soient proches, ça va être la même chose sur le mur des lamentations. Pour un religieux, d'être proche de quelque chose qui est sacré, si on veut, tu as l'impression d'être plus proche de Dieu. Je le mentionne parce que dans mes leçons, dans deux minutes, Je vais revenir avec ça. Puis là, on voit ça, ça serait une dalle qui aurait servi à laver des corps. Tu descends les corps des croix. Cette dalle-là serait celle sur laquelle le Seigneur était. Bon, c'est celle-là, on ne sait pas. Mais tu vois, les madames qui sont là, qui sont en adoration, si on veut. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Mais pour un religieux, dès qu'il y a quelque chose qui aurait touché au Seigneur, ben ça a une valeur. Aussi, juste pour dire, c'est tellement vieux dans ce coin-là, ça, c'est des tunnels du temps des Écrasses. Bon, c'est très, très vieux, là. Il y en avait au moins trois. Il y en a un qu'on n'a pas fait, on a fait deux. 133 mètres de long. Fait que, phobe de là, moi, que je me penchais, ça ne rentrait pas. Là. Fait que je recule, j'enlève le sac, je passe le sac en avant. Fait que quelqu'un qui est claustrophobe, il pourrait ne pas avoir trop de plaisir dans ces coins-là. Mais c'est pour montrer que c'est très, très vieux. On en voit un autre en haut à droite. Là, ils ont mis de quoi au sol. Mais c'est vraiment pas large, mais c'est très, très vieux. Un ricin à gauche. Donc, Jonas avec un ricin. Les deux parties qui resteraient du deuxième temple, à gauche, des vieux escaliers, le mur de lamentation à droite, donc le restant du deuxième temple. C'est ce que je disais tantôt, pour un juif, c'est l'endroit le plus sacré sur terre. Donc, quand tu es là, juste à l'intérieur de ça, avait le lieu très saint. Donc, quand tu es là, tu as l'impression d'être plus proche de Dieu pour un juif. Puis, ils mettent même sur des post-it des affaires dans les roches, c'est comme une prière. Fait que quand tu mets là, tu es plus proche de Dieu. Bon, c'est ça. Pour un religieux, ils sont plus proches. J'achève avec ça. Donc, c'est ce qu'on voit, des fortifications, des ruines, tout ça. Puis ça, c'est le Parlement, le Knesset, le Parlement d'Israël. Il y a un président qu'on entend moins parler, c'est surtout un premier ministre qui gère là-bas, Netanyahou. Donc voilà, je peux arrêter le partage d'écran. Puis il me reste des leçons. Parce qu'après ça, bon, on est revenu. Il y a un paquet d'autres choses. Moi, je voulais juste faire un petit contexte pour Israël, mais je ne voulais pas finir sans avoir des leçons. C'est une prédication, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Fait que c'est le plus important selon moi. Donc, comme je disais tantôt, il faut toujours placer, quand on lit la Bible, soit un verset, un passage, il faut toujours le mettre dans son contexte. Puis de connaître Israël, tu sais, la culture, les traditions, etc., ça peut nous aider à ça. Tantôt, je parlais du vin. Le vin, ça revient dans l'Apocalypse aussi. Tu sais, je ne ferais pas de mal au vin. Et tout ça. T'sais, le Seigneur utilisait ce que les gens connaissaient pour leur parler, dans ses paraboles, dans ses enseignements. Fait que de connaître un peu de culture d'Israël, ça nous aide à mettre la Bible dans son contexte, parce qu'on sait à qui il parlait, puis pourquoi il dit telle chose, pourquoi il revient souvent sur la vigne, les vignerons, puis tout ça, ben, c'est parce qu'il cultivait ça en Israël. Puis on n'a pas besoin d'aller en Israël pour ça. Nous, on a été privilégiés, on est allés. Mais de juste de connaître un peu plus, justement, le contexte d'Israël, ça aide, après ça, à mettre nos lectures dans son contexte. Ensuite, je disais tantôt, les religieux, il faut qu'ils soient proches. Si tu penses, tu sais, si tu es un religieux, puis le Seigneur, il est mort ici, mais pour toi, c'est vraiment impressionnant. Mais on a fait référence tantôt, Dieu, il est partout maintenant. Là. Tu sais, la voile du temple, il s'est déchiré maintenant. Là. Fait que l'accès, Dieu est omniscient, omniprésent. On n'a pas besoin d'aller en Israël, on n'a pas besoin d'être dans une église, on n'a pas besoin d'un lieu physique pour être proche de Dieu. Dieu, il est partout. Puis quand on va là-bas, les Juifs, c'est le mur de lamentation, c'est sacré pour eux autres. Tu sais, les madames qui touchent à la dalle, puis ça, c'est, je comprends, là, peut-être que c'est important pour eux autres, puis tout, mais c'est pas important, en réalité. On a accès à Dieu illimité, 24 heures sur 24, la raison qu'on veut, quand on veut, on a accès à lui, on n'a pas besoin d'un lieu pour ça. Puis ça, ça frappe là-bas. Et comme je disais, dès qu'il y a un lieu traditionnel, il y a une cathédrale par-dessus, on n'a pas besoin de ça. Dieu est partout. Fait que ça, c'est une leçon à retenir. Ensuite, comme je disais tantôt, Israël a été choisi et placé pour une raison. En Israël comme tel, sur le territoire, dépendre de Dieu par la foi et le présenter au monde. Comme je disais, les nations vont par là et retournent dans le monde. Comme nation, ils n'ont pas vraiment fait leur rôle parfaitement, on va dire ça comme ça. Ils n'ont pas accueilli le Seigneur comme Messie. Mais nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est ça. Puis la stratégie n'est pas la même. On n'est pas placé à un endroit, puis les gens viennent à nous. On est partout dans le monde, les chrétiens, aujourd'hui, avec le même mandat qui est d'annoncer la parole aux autres. Stratégie un peu différente. On est partout dans le monde. Si on évangélise, on amène la parole de Dieu à nos proches, en étant partout dans le monde, bien là, c'est une autre façon, une autre stratégie de répandre la parole de Dieu. Mais c'est pas la même. Les Juifs étaient placés un territoire, petit peuple, les gens venaient par là, mais nous, c'est notre rôle aujourd'hui d'annoncer l'Évangile, mais on est partout dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est notre rôle. Dernier point, avec ce qui se passe actuellement en Israël, Est-ce que c'est bientôt le retour du Seigneur? Peut-être. On se le souhaite, j'ai envie de dire. On sait que ça va brasser, mais c'est peut-être, tu sais, les éléments, tu sais, tout ça s'embrase dans la région. Bien, c'est peut-être ce que ça prend pour que le Messie revienne. Puis je le mentionne comme encouragement. Puis, ou encouragement, parce que oui, ben, moi, je serais content que le Seigneur revienne tout de suite, mais que ce soit aussi une façon de veiller aussi à son retour. Il faut veiller à son retour. Donc, je vais prier, mais juste avant, je répète mes quatre leçons. Donc, mettre la Bible dans son contexte quand on lit. Donc, culture d'Israël, ça peut nous aider à ça. Dieu est partout. On n'a pas besoin d'avoir un lieu religieux, site traditionnel. On n'a pas besoin. Dieu est partout. Il est accessible par tout le monde en tout temps. Puis c'est ce qu'il souhaite. Il nous appelle à lui. Le troisième, Israël a été placé là pour une raison, un peu échoué dans sa mission. Mais notre rôle aujourd'hui, comme chrétien, c'est d'annoncer la parole aux autres. Puis on est placé partout dans le monde pour ce faire. Puis le quatrième point, c'est que c'est peut-être bientôt le retour du Seigneur. Donc, c'est un encouragement à veiller. Donc voilà. Je termine avec un mot de prière. Seigneur, merci pour qu'on ait eu la chance d'entendre parler d'Israël avec tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur. Puis on prie pour eux. Aide-nous à prier intelligemment, si je peux dire. Parce qu'on sait qu'on voudrait prier pour que ça se passe bien en Israël, mais clairement, on sait dans ta parole que ça n'ira pas nécessairement s'améliorer, mais on voudrait que dans ta grâce et dans ta gloire, qu'il y ait des personnes là-bas, autant juifs, autant palestiniens, même se tournent vers toi, Seigneur. Puis on te remercie aussi dans ce qu'on a vu, qu'on n'a pas besoin d'aller à un endroit particulier pour avoir accès à toi. Tu nous appelles, Seigneur, puis ce que tu veux, c'est que les hommes soient réconciliés avec toi. Et ça, on n'a pas besoin d'un lieu précis pour cela, Seigneur. Merci de ce que le voile du temple a été déchiré. Est-ce que maintenant tu es accessible à tous? Quel privilège qu'on a, Seigneur, d'avoir accès à cette paix, à cette joie, cette assurance éternelle. Seigneur, aide-nous aussi dans notre rôle qu'on a d'annoncer ta parole au monde. Tu nous as placés dans un travail, dans une famille, Seigneur, mais avec une famille élargie. Notre rôle, c'est de t'annoncer aux autres en attendant ton retour, Seigneur. Alors, aide-nous dans ce rôle-là. C'est pas toujours facile. Des fois, avec les événements qui se passent dans le monde, le niveau de moralité, tout ça, des fois, on se tient plus à l'écart, mais donne-nous un peu plus de zèle pour parler de toi aux autres. Et Seigneur, je termine avec ça. Merci pour l'annonce de ton retour bientôt. On sait qu'on est sauvés. Il n'y a personne qui peut nous enlever notre salut. On est scellés par ton Saint-Esprit. Alors, en attendant ton retour, Seigneur, on veut veiller. On veut porter ta parole aux autres. Puis, vraiment, Seigneur, on a hâte à ton retour. Seigneur, aussi, je prie pour l'Assemblée de Sainte-Marie. Merci pour ce flambeau que tu as placé ici. Bénis l'Assemblée. Bénis mes frères et sœurs ici. Et que ce flambeau dure jusqu'à ton retour. On prie au bon nom du Seigneur Jésus. Amen.